Un des avantages d'une série en prédication, c'est qu'elle vous amène à aborder des textes que l'on n'aborde pas généralement. Souvent parce que ce sont des textes avec des difficultés notoires, parfois parce que l'on veut éviter que l'Assemblée pense que le texte a été choisi pour aborder discrètement un problème dans l'Église. Ce matin, notre série sur l'apôtre Pierre nous amène à un de ces textes qui, pour certains, trouveraient mieux leur place dans l'Ancien Testament, ou mieux sa place dans l'Ancien Testament. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Église n'a pas cessé de grandir. Il y a eu littéralement des milliers de conversions. L'Église est florissante. Dieu y est manifestement à l'œuvre par le salut qu'il accorde et aussi par les nombreux signes et miracles qui s'y produisent. Et une des conséquences de cette formidable croissance, c'est la concentration de besoins que l'Église, les apôtres, doivent maintenant gérer. Il est fort probable que beaucoup des Juifs de la diaspora qui étaient venus à la Pentecôte et qui se sont convertis ne soient pas repartis tout de suite pour apprendre davantage sur ce Jésus qu'ils ont accepté comme sauveur et maître. Ça en fait du monde. Et ça en fait des bouches à nourrir. Et puis, pour compléter le tableau, les apôtres et les disciples qui les entourent sont maintenant occupés à plein temps. Plus le temps d'aller pêcher, ou d'aller cultiver la terre, ou faire ce qu'ils faisaient pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Il faut donc trouver des moyens financiers pour cela, afin qu'ils puissent rester concentrés sur leur service, sur leur mission. Et c'est ainsi que s'est organisé, spontanément, naturellement, guidé par le Saint-Esprit, bien évidemment, une mise en commun des biens des uns et des autres. Très certainement pour pouvoir subvenir à tous les besoins que je viens d'évoquer. Et c'est ainsi que nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 42 à 47, « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Ou encore, un petit peu plus loin, acte 4, versets 32 à 37, « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui se traduit fils d'encouragement, un Lévite originaire de Chypre, vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Ces deux textes nous donnent une idée, une image de ce qui se passait dans cette église naissante. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tableau paraît idyllique. Et c'est d'ailleurs souvent cette image idyllique que nous avons de l'église au commencement, à son commencement. Pourtant, la situation n'est pas si idyllique que ça. Et c'est ce que nous allons constater ce matin dans le passage que je vous invite à lire avec moi maintenant. Nous continuons finalement la lecture de ce que nous venons de lire au début du chapitre 5 et je lis les 11 premiers versets. Acte 5, versets 1 à 11. Or un nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit aussi une propriété avec le consentement de sa femme. Il détourna une partie du prix, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ ? Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder ? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité ? Comment as-tu pu envisager pareille action ? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit cela, il tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Sachez-le, ceux qui ont enseveli, sache-le, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront aussi. » À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent cela. Ce passage présente quelques difficultés, souvent pointées du doigt par les détracteurs de la foi. Il est question, par exemple, de la sévérité de Dieu, qui juge ici dans le Nouveau Testament à la manière de l'Ancien, de la dureté de Pierre, qui ne semble pas donner à Ananias l'occasion de se repentir, et qui ne dit pas à Saphira que son mari est mort, de la cruauté de l'Église, qui enterre Ananias sans en informer sa femme. Nous apporterons de ci, de là, quelques éléments de réponse à ces différentes questions ou ces différents points. Passons au récit lui-même. C'est notre deuxième point après ces quelques mots d'introduction. C'est dans le contexte que nous avons décrit de la concentration de besoins et à la suite de la vente du champ par Barnabas que se passent les événements que nous venons de lire. Si rien n'est dit explicitement de la motivation d'Ananias et Saphira, la juxtaposition de notre récit avec le récit de celui de Barnabas qui a vendu le champ, son champ, peut nous laisser à penser qu'Ananias et Saphira ont été pris dans une sorte de mouvement, qu'ils ont été pris dans, peut-être par l'euphorie du moment. Sans doute ont-ils été impressionnés par ce que Barnabas avait fait. Peut-être ont-ils envié les honneurs qu'il a reçus. Quoi qu'il en soit, ils ont décidé de vendre une propriété qu'ils possédaient. Mais dès le départ, le texte dit clairement que nous sommes dans un autre registre que celui de l'action de Barnabas. Verset 2, Ananias détourna une partie du prix. Et ce même verbe détourner, qui pourrait se traduire par voler, est utilisé à nouveau au verset 3. Nous sommes donc ici dans le registre de la tromperie, dans celui de l'hypocrisie. Notons que le montant de la vente n'est pourtant pas précisé. Notons aussi que la proportion de ce qui est donné et gardé ne l'est pas non plus. Pourquoi ? Sans doute parce que le cœur de cette affaire n'est pas premièrement l'argent ou l'amour de l'argent, même si ça a son importance, mais bien la tromperie et l'hypocrisie d'Ananias et Saphira. Ananias détourna une partie du prix. À ce stade, deux précisions méritent d'être faites. Premièrement, rien n'obligeait Ananias et Saphira à vendre leur propriété. Rien. Deuxièmement, rien ne les obligeait à donner en partie ou totalement l'argent de la vente aux apôtres, à l'Église. C'est d'ailleurs clairement ce que Pierre dit à Ananias au verset 4. Lorsque celui-ci, à savoir le champ, était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder ? Et quand même il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité ? Comment as-tu pu envisager pareille action ? Oui, comment ont-ils pu envisager pareille action ? Il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire ici sur, par exemple, l'effet de groupe, l'effet d'entraînement. Beaucoup de choses à dire sans doute sur la psychologie d'Ananias et Saphira, qui était peut-être plein d'insécurité, avec un grand besoin de reconnaissance et d'acceptation par les autres. On pourrait certainement trouver ainsi beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas entrer dans ces considérations ce matin. Ce que j'aimerais souligner cependant, c'est ce qui est dit de l'action de Satan. Le texte précise au verset 3 que Satan est clairement à l'œuvre dans cette situation. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur ? Que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est la réalité de la guerre spirituelle qui fait rage à ce moment-là et qui fait finalement toujours rage, mais sans doute tout particulièrement à ce moment-là. Ainsi, au-delà des personnes impliquées, il faut placer ce passage dans la perspective des nombreuses tentatives de Satan pour freiner, voire arrêter la croissance de l'Église. Satan n'a pas réussi à empêcher Jésus d'accomplir sa mission. Il a tout fait pour cela, mais il a finalement été vaincu. S'est-il pour autant avoué vaincu ? Absolument pas. Et nous le voyons dans le livre des Actes redoubler d'efforts pour entraver la progression de l'Évangile, pour empêcher l'Église d'accomplir sa mission. Et c'est ainsi que les arrestations des apôtres vont se succéder dans le livre des Actes. C'est ainsi qu'Étienne va être lapidé. C'est ainsi que l'Église va être persécutée à de nombreuses reprises par un certain Saul de Tarse en particulier. Oui, notre texte, je le crois, doit être compris comme une autre tentative de Satan de l'intérieur cette fois-ci, pour attaquer l'Église. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ ? Satan a donc agi dans le cœur d'Ananias et de Saphira. Littéralement, il a rempli le cœur d'Ananias. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ananias était-il vraiment converti ? Certains, sur la base de ce verset, affirment qu'Ananias et Saphira n'étaient pas chrétiens. parce qu'il n'est pas possible que Satan remplisse un cœur régénéré, un cœur qui est la demeure du Saint-Esprit. On peut entendre cette logique. Il est vrai que Satan ne peut pas posséder un chrétien, mais il est vrai aussi qu'il peut l'influencer. L'influencer pour peu que celui-ci le laisse faire. La question de Pierre à Ananias sous-entend clairement que Pierre aurait pu faire quelque chose. Cette action de Satan dans son cœur n'était pas inéluctable. Il aurait pu résister, il aurait pu s'y opposer. Les choses n'ont pas encore été formulées à ce moment-là dans la Bible, puisqu'elles le seront par l'apôtre Paul aux Éphésiens, mais Dieu a donné, a mis à disposition des chrétiens une armure, des armes spirituelles pour pouvoir résister au diable. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures des bonnes dispositions de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole. Non, il n'était pas inéluctable que Satan remplisse le cœur d'Ananias et de Saphira, qu'il les influence. Pour ce qui est de la conversion ou pas d'Ananias et Saphira, il n'est pas nécessaire, à mon sens, à la cohérence du texte, de penser qu'ils n'étaient pas chrétiens. En fait, l'expression « remplis ton cœur » utilisée au verset 3 représente, d'après certains commentateurs, ce qu'on appelle une expression idiomatique, sémitique, une façon de dire les choses dans une certaine culture qui est difficile à traduire dans une autre, et que l'on pourrait traduire par « t'as fait oser ». Satan t'a fait oser d'agir de cette manière-là. Et si c'est le cas, alors nous serions bien ici dans le domaine de l'influence et non pas de la possession, par exemple. Et puis, bien sûr, rappelons tout simplement que le chrétien reste pécheur. Il pêche d'ailleurs à chaque fois qu'il fait le choix de la chair plutôt que celui de l'esprit. Il peut même lui arriver de mentir. Sinon, pourquoi Paul écrirait-il aux Colossiens « Ne vous mentez pas les uns aux autres ?» À mon avis, il n'est pas nécessaire de penser que, en tout cas devant les agissements d'Ananias et Saphira, qu'ils n'étaient pas chrétiens. Mais je laisse le débat ouvert, que nous pourrons reprendre en étude biblique. Et j'ajoute une dernière chose, qu'on pourra là aussi commenter, si vous le souhaitez. Simplement que la mort d'Ananias et Saphira, si elle est un jugement de Dieu, comme cela semble être le cas, ne signifie pas nécessairement la perte du salut, par exemple, comme certains l'affirmeront. Venons-en à ce qui est reproché à Ananias. Le verset 3 est explicite. Il est question de mentir. De mentir premièrement à l'Esprit Saint, et puis à la fin du verset 4, il est cette fois-ci question de mentir à Dieu. Ce que Pierre dit ici souligne deux choses au sujet du Saint-Esprit. Premièrement, il est une personne, puisqu'on peut lui mentir. Et puis, deuxièmement, il est Dieu, puisque cela semble être interchangeable. Mais pourquoi est-ce à Dieu et non aux hommes qu'Ananias a menti? Pourquoi est-ce que ce reproche lui est fait? Premièrement, parce que le péché est toujours premièrement contre Dieu. Ça, c'est une chose qu'il faut d'abord dire. Mon péché, quel qu'il soit, est toujours d'abord une offense envers Dieu, envers le Dieu trois fois saint. Et puis, deuxièmement, parce qu'en cherchant à tromper les apôtres, c'est vraiment Dieu qu'Ananias et puis plus tard Saphira ont cherché à tromper. Mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut jamais mentir à celui qui sait tout. Ananias ne l'avait pas compris. Il pensait certainement que son mensonge allait passer inaperçu. comment Pierre a-t-il su qu'Ananias mentait ? Est-ce que la somme présentée ne correspondait pas au prix raisonnable pour la vente d'un champ ? Peut-être que Pierre connaissait le bien d'Ananias et a trouvé vraiment la somme pas en adéquation ? Est-ce que Pierre a posé des questions à Ananias comme il le fera à Saphira qui lui ont mis la puce à l'oreille ? En fait, peu importe le comment. Car à l'évidence, dans ce texte, ce qui me semble être clair, c'est que c'est par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, c'est ce que l'on peut lire entre les lignes, bien évidemment, c'est par l'inspiration du Saint-Esprit que Pierre a su ce qu'Ananias était en train de faire. Quand Ananias a entendu les paroles de Pierre affirmant que c'était à Dieu et non aux hommes qu'il avait menti, il tomba et il expira. Alors on a tenté d'expliquer la mort d'Ananias de toutes sortes de manières. On a parlé de crise cardiaque, on a parlé de choc consécutif au fait de se savoir découvert, etc., etc. En fait, se concentrer sur cet aspect des choses, c'est en réalité passer à côté du point important de notre texte, qui présente cette mort, quelle qu'en soit l'explication rationnelle, comme un jugement divin. C'est ça qui est important dans notre texte. Que Dieu se soit servi d'une crise cardiaque ou pas, peu importe. Ce qui importe, c'est que c'est un jugement divin. Et nous lisons ensuite qu'une grande crainte saisit tous ceux qui la prirent. Cette grande crainte est assez facile à imaginer. Imaginez d'ailleurs un instant que Dieu agisse ainsi parmi nous aujourd'hui. Ne serions-nous pas aussi saisis d'une grande crainte ? Passons rapidement à Saphira. Environ 3 heures plus tard, elle arrive, sans savoir ce qui est arrivé à son mari. Pourquoi ne le sait-elle pas ? Pourquoi n'est-elle pas présente lors de l'inhumation ? Le texte ne donne aucune précision. En tout cas, il ne me semble pas nécessaire de voir ici une quelconque cruauté de la part de l'Église. Il y a certainement des circonstances particulières qui ont fait qu'elle n'était pas là et qu'elle n'était pas au courant. Si Pierre décide de ne pas informer Saphira, mais de plutôt l'interroger, là aussi, je ne pense pas qu'il faille voir un manque de compassion ou de la dureté du cœur, mais peut-être plutôt le fait que Pierre ne veut pas influencer la réponse de Saphira. Parce que ce que Pierre veut, c'est la vérité. Il est possible que Saphira n'y soit pour rien. Il est aussi possible qu'elle ait tout manigancé avec son mari. Et en agissant ainsi, Pierre lui donne la possibilité, le cas échéant, de confesser son péché et de s'en repentir. Malheureusement, sa réponse la trahit et révèle qu'elle et son mari se sont mis d'accord pour agir de la sorte. Et après les paroles de Pierre annonçant sa mort, elle aussi tombe à ses pieds et expire. Et la grande crainte qui avait saisi tous ceux qui avaient appris le décès d'Ananias est à nouveau soulignée. Elle saisit toute l'Église, on le comprend aisément, et tous ceux qui la prennent. J'aimerais maintenant terminer avec quelques prolongements qui s'impose devant ce texte. C'est notre troisième point. Et le premier prolongement concerne l'Église et le péché. L'Église et le péché. L'Église n'est pas le paradis. L'Église n'est pas le lieu de la perfection. L'Église n'est pas parfaite. L'Église n'est pas un lieu où le péché n'existe pas. Ça sera la nouvelle Jérusalem. Ça sera la gloire après le retour du Seigneur. L'Église parfaite, c'est parfois ce que certaines personnes attendent ou recherchent dans une Église ou d'une Église. Et elles le font parce qu'elles n'ont pas compris que les chrétiens ne sont que des pécheurs à qui Dieu a fait grâce, car ils se sont repentis de leurs péchés. Non, l'Église, ce n'est pas le club des gens parfaits, ça se saurait. Ce n'est que le rassemblement de celles et ceux qui se sont reconnus pécheurs devant Dieu et qui ont accepté sa grâce offerte en Jésus. Notons d'ailleurs que la Bible ne cherche absolument pas à montrer une image idyllique de l'Église. Le texte de ce matin nous le rappelle, et tout le reste du Nouveau Testament aussi. Si nous avions voulu écrire quelque chose sur l'Église, on aurait certainement embelli les choses. Relisez ce que le Nouveau Testament dit sur l'Église, relisez toutes les exhortations de l'apôtre Paul, et vous verrez qu'il y en avait des problèmes dans les églises du Nouveau Testament. Même l'Église des débuts, pourtant là c'est vraiment le... Après la Pentecôte, vous vous rendez compte, la première Pentecôte, même cette Église-là, est concerné par le péché, bien évidemment. Chers amis, même si une Église parfaite pouvait exister sur terre, ce qui est absolument impossible, et que vous la trouviez, elle cesserait d'être parfaite du moment que vous en franchissez le seuil. C'est vrai pour chacun de vous et pour moi aussi, bien évidemment. Attention donc à nos attentes. Attention à ne pas rechercher l'impossible dans l'Église. Attention aussi à ne pas prétendre, par notre comportement ou notre témoignage, ce qui n'est pas possible ici-bas. Attention au risque de tomber dans le travers de l'hypocrisie qui est au cœur de notre passage. Et c'est d'ailleurs le deuxième prolongement que je voudrais faire maintenant, le chrétien et l'hypocrisie. Le chrétien et l'hypocrisie. Tous des hypocrites. Les chrétiens sont tous des hypocrites. Vous avez sans doute déjà entendu ce jugement à l'emporte-pièce. Que faut-il en penser? Et que faire face à un tel jugement? Commençons par rappeler ce qu'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, dit le petit Robert, c'est l'attitude qui consiste à déguiser son véritable caractère, à manifester des opinions, des sentiments et spécialement des vertus qu'on n'a pas. Et c'est bien ce qu'ont fait Ananias et Saphira dans notre texte. En prétendant être d'une grande générosité, en prétendant avoir tout donné de l'argent de la vente de leurs champs. Ils voulaient sans doute que l'on pense qu'ils étaient très généreux, qu'ils étaient très spirituels. Ils voulaient certainement se faire bien voir, impressionner les autres, recevoir les honneurs, être admirés des autres. Notons sans développer que c'est bien évidemment l'orgueil qui est la motivation principale de l'hypocrisie. Alors je reviens à cette affirmation, tous des hypocrites en parlant de l'Église. Affirmation derrière laquelle beaucoup de non-chrétiens s'abritent pour justifier leur refus de la foi, de l'Église ou des choses de Dieu en général. Que faut-il en penser ? Et que pouvons-nous faire face à cette affirmation? Nous pouvons la balayer d'un revers de la main en disant que ce n'est pas nous qui sommes visés, mais toutes les hypocrisies du passé en particulier. Ce n'est pas complètement faux, mais est-ce suffisant? Une attitude bien plus juste à mes yeux est de chercher ce que nous pouvons faire pour changer cette vision des choses. Et surtout de chercher ce que nous faisons peut-être pour entretenir cette vision des choses. Ainsi, il me semble que la manière dont nous vivons l'Église, par exemple, et la manière dont nous parlons de l'Église ont une importance cruciale dans cette affaire. Comment vivons-nous l'Église ? Qu'est-ce que je montre de moi-même ? Est-ce que c'est toujours le meilleur ? Ou alors est-ce que c'est aussi parfois mes combats, mes faiblesses, mes doutes, mes inquiétudes, mes insécurités ? Ou alors toujours le meilleur ? Et puis comment disons-nous l'Église autour de nous ? Avons-nous tendance à toujours l'embellir ? Embellir les choses, arrondir les angles, adoucir les courbes, en passant systématiquement sous silence tout ce qui semble négatif ou tout ce qui est négatif ? Et si nous agissons ainsi, est-ce que nous ne contribuons pas à perpétuer cette image hypocrite de l'Église ? Et puis qu'en est-il tout simplement du décalage qui existe, qui peut exister dans ma propre vie entre ce que je dis, ce que je confesse et ce que je vis ? Ce décalage ne contribuerait-il pas aussi à alimenter cette idée que les chrétiens sont parfois des hypocrites ? Et nos enfants, si nous en avons, sont particulièrement sensibles à ce décalage dans notre propre vie. Chers amis, ce qui rebute, ce qui repousse, ce qui ne donne pas envie, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas l'authenticité. Et notre monde a soif d'authenticité. Est-ce que cela se voit parmi les chrétiens, dans l'Église ? Dans ce qu'elle donne à voir, dans ce qu'elle dit d'elle-même. Alors bien sûr, sans faire l'apologie de la faiblesse, de nos faiblesses ou du péché, il faut savoir être soi-même, apprendre ou réapprendre à être tout simplement soi-même. Il faut apprendre, réapprendre à savoir résister à la tentation de mettre un masque de super-héros de la foi quand nous sommes avec des frères et sœurs. Plutôt que de prétendre que nous maîtrisons tout et que nous sommes au top spirituellement parlant, sachons utiliser la réalité de nos faiblesses et du péché dans notre vie pour parler de Dieu qui, dans son amour et dans sa grâce, nous accepte tel que nous sommes, sans avoir besoin d'un masque. Le troisième prolongement que j'aimerais faire, c'est l'avant-dernier, je vous rassure, on arrive au bout, concerne Dieu et le jugement. Que des thèmes faciles à aborder ce matin, comme vous pouvez le constater. En effet, il apparaît clairement dans notre passage que les morts d'Ananias et Saphira sont des jugements de Dieu. Il me semble difficile de ne pas arriver à cette compréhension de notre texte. Il y a ici la question du jugement en général et puis le cas particulier de notre texte. Pour le jugement en général, je voudrais simplement rappeler que celui-ci est de la prérogative de Dieu. D'une part parce qu'il est le Créateur, il est celui qui donne la vie et qui peut la reprendre à tout moment. D'autre part, parce qu'il est le Dieu trois fois saint, que notre péché, dont le salaire est la mort, ne cesse d'offenser. Mes amis, Dieu n'a pas besoin de la permission de l'homme pour exercer ses jugements. Il est dans son droit, dans son bon droit à chaque fois qu'il le fait. Et qui suis-je pour contester cela avec lui ? Quand Dieu juge, il n'est coupable d'aucun crime. C'est le pécheur qui est coupable. Voilà très sommairement, pour le jugement en général. Qu'en est-il du cas spécifique de notre passage ? Dieu a-t-il été trop sévère avec Ananias et Saphira ? Beaucoup le pensent. Pour répondre à cette question, il faut sans doute bien prendre la mesure de la situation, du moment, et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce qui est exceptionnel dans notre situation, c'est que nous sommes dans le cas unique, je dis bien le cas unique, des débuts de l'Église, des tout débuts de l'Église. Ce sont les fondements qui sont en train d'être posés d'une certaine manière. Et il n'était pas possible de laisser l'Église se construire sur la base du péché, du mensonge et de l'hypocrisie, par exemple. Il fallait corriger le tir rapidement et montrer combien le péché est détestable pour Dieu, combien le péché est grave à ses yeux et ne peut pas être accepté dans l'Église. Dieu a-t-il été trop sévère? De mon point de vue de pécheur, oui. De mon point de vue de pécheur, oui. Mais du point de vue de Dieu et des enjeux du moment, certainement non. Il fallait couper court à ce péché qui allait se propager comme une grande graine dans cette Église naissante, c'est-à-dire sans expérience aucune, où tout était à construire. Notons pour finir que toutes les fautes, bien évidemment, ne suscitent pas la colère immédiate de Dieu. En fait, Dieu a déterminé un jour pour cela, le jour du jugement dernier, où il jugera les hommes. Mais il arrive parfois, et c'est le mystère de sa volonté, que Dieu le fasse d'une manière anticipée. C'est sa prérogative, là aussi. Rien ne l'oblige à attendre, en fait. C'est sa grâce qui fait qu'il a déterminé un jour à venir. Il agit donc parfois de manière anticipée, et c'est ce qu'il a fait ici dans notre texte pour Ananias et Saphira. Ça ne répond pas forcément à toutes les questions, mais ça ouvre le débat pour l'étude biblique qui vient. Je termine avec un quatrième et dernier point, dernier prolongement qui concerne l'homme et la crainte de Dieu. Aujourd'hui, en règle générale, on veut bien de Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il veut nous apporter, qu'il peut nous apporter, pour tout le confort qu'il nous apporte, pour le repos que nous avons, pour le pardon des péchés, pour la paix, pour la sérénité, pour la guérison, pour la délivrance, etc. On veut bien du Dieu d'amour. On aime bien parler du Dieu d'amour. Mais beaucoup moins, ou pas du tout, du Dieu saint qui condamne et juge le péché. Qui veut encore aujourd'hui parler de la crainte de Dieu et prêcher sur la crainte de Dieu ? Comprendre qui est véritablement Dieu, c'est aussi comprendre qui je suis. Et quand je comprends la sainteté de Dieu, alors je commence à comprendre que je suis pécheur, et je comprends ce que mon péché signifie pour Dieu. Et il est donc bon et important que nous comprenions qui est Dieu, que nous comprenions que Dieu est amour, qu'il est bonté, qu'il est patience, etc. Mais il est tout aussi bon et important que nous comprenions qu'il est saint et juste et qu'il a le mal en horreur. Et il est bon et important que cette compréhension génère en nous de la crainte, la crainte de Dieu, pour que nous ne tentions pas Dieu comme le firent Ananias et Saphira. Pour que nous ne pensions pas que tout nous est permis parce que nous vivons dans le Nouveau Testament et que nous avons été sauvés par grâce en Jésus-Christ. Pour que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Plusieurs versets le disent, j'ai choisi celui de Proverbe 9, verset 10. Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. On parle ici des béabas, n'est-ce pas? Combien est précieuse la crainte de Dieu dans notre cœur? précieuse mais en réalité trop souvent évitée, précieuse mais rarement recherchée. Chers amis, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous arrive-t-il de lui demander de mettre sa crainte dans notre cœur? J'ai dû constater que je ne le faisais vraiment pas souvent. Je ne peux même pas me rappeler la dernière fois que j'ai prié de cette manière-là. Nous arrive-t-il de lui demander de mettre sa crainte dans notre cœur? Non pas pour nous éloigner de lui, au contraire, mais pour nous en rapprocher par la sagesse que la crainte de Dieu apporte dans notre vie. Oui, le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse la grâce de grandir dans son amour, mais aussi dans sa crainte. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement.